France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Inès Bouvartik, Sébastien, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard et Loïc Antoine, réalisée par Margot Page. Et à la technique ce matin, c'est Nicolas Leroulé. Troisième épisode de notre série consacrée aux réponses des États face aux violences sexuelles et sexistes après le Mexique, le Chili, l'Allemagne, la Suisse. Nous parlons ce matin de la Corée du Sud, où il faudrait déjà sortir du déni qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'antiféminisme.
J'ai entendu qu'il y aurait des putains de féministes là-bas. Tu connais les féministes ? Tu ne connais pas ? Ce sont des misandres, elles détestent les hommes. Ce n'est pas grave si tu ne les connais pas, parce que je vais toutes les tuer.
C'est très dangereux d'être féministe ici. Juste après m'être fait couper les cheveux dans le métro, des hommes me bousculaient en me tapant dans l'épaule comme ça. Ils me regardaient avec hostilité. En plus de ça, les violences en ligne à mon encontre sont constantes. Énormément de personnes menacent de me violer. Tout ça parce que je donne mon opinion.
On pourrait déjà faire beaucoup plus si les lois existantes étaient appliquées correctement. La police et les procureurs devraient développer leurs connaissances et leur sensibilité sur cette question du harcèlement. Avant, dans notre pays, les gens pensaient que suivre une femme dans la rue était juste une façon d'exprimer une passion romantique. Et cette idée est toujours partagée par beaucoup.
Suivre une femme dans la rue comme exprimer une passion romantique et témoigner d'un amour bref, d'un tranchant de couteau, à moins que l'arme ne serve à résoudre une frustration, une haine des femmes de plus en plus ouvertement exprimée en Corée du Sud. Une nuit du mois de mai en 2016 à Séoul à 1h du matin, un homme sans doute assailli au quotidien de ses petites frustrations ordinaires, le rhume des foins, le rhume tout court, l'ennui, les spams téléphoniques, les petites factures. Un homme a trouvé qu'une jeune femme croisée dans un karaoké, plus précisément dans les toilettes où il venait pourtant de se soulager dans la faïence, était la frustration de trop. Il s'est jeté sur elle et toute la décharge de son ressentiment a sans grand effort tué cette jeune femme de 23 ans qu'il n'avait jamais rencontrée, mais dont il dira qu'elle n'était qu'une femme parmi toutes celles qu'il avait ignorées et humiliées toute sa vie. Ce crime déclenchera en Corée une mobilisation inédite dans tout le pays, portée par une nouvelle génération de féministes qui dénoncent une misogynie structurelle. Les adolescentes sont particulièrement exposées au harcèlement numérique. Des photos ou vidéos leur sont volées, diffusées, trafiquées. Qu'en font les responsables politiques, surtout depuis que le président conservateur Yoon Suk-yeol, antiféministe revendiqué, n'est plus là ? Qui pour écouter les femmes et pour les protéger ? Bonjour Marion Gilbert.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, enseignante à l'Université Paris-Cité et à la Sorbonne, autrice d'une thèse sur les violences faites aux femmes en Corée du Sud à l'EHESS. Bonjour Nicolas Roca.
Bonjour.
Merci également d'être là. Vous êtes journaliste, ancien correspondant à Séoul, aujourd'hui journaliste au service international de RFI. Alors commençons par ce crime dont vous parlent encore toutes les Coréennes que vous rencontrez ou que vous avez rencontré Nicolas Roca quand vous êtes arrivé en Corée du Sud, je crois en 2019 ou 2020, et vous Marion Gilbert dans le cadre de votre travail. C'est ce meurtre du 17 mai 2016 dans les toilettes d'un karaoké à Séoul dans un quartier huppé. Est-ce qu'il a été reconnu comme un féminicide, ce crime ?
Alors effectivement, ce crime, autour de ce crime, il y a eu toute une bataille pour savoir si on pouvait le qualifier de féminicide ou pas. Et cette bataille a été portée par des associations féministes. Le problème de ce meurtre, dont vous avez très bien expliqué que effectivement le criminel avait choisi de tuer une femme en particulier. Donc même s'il a pu voir des hommes passer avant, il s'est jeté sur une femme parce qu'il voulait tuer une femme. Donc il y a effectivement une dimension féminine dans ce crime-là. Le problème, c'est que il était atteint de schizophrénie et bipolaire en même temps, ce qui a fait que c'était difficile parce qu'une partie de l'opinion disait « mais non, c'est juste un malade mental », sachant que tous les schizophrènes ne se jettent pas sur quelqu'un dans la rue non plus, hein, évidemment. Et d'un autre côté, il y avait donc les associations féministes qui voulaient faire reconnaître la dimension de féminicide de ce crime pour pouvoir ensuite lutter plus efficacement contre les violences sexuelles.
Et la justice sud-coréenne, elle, a classé ce crime dans une catégorie qu'on pourrait traduire par crime sans motif apparent, Mujima. C'est ça, donc elle n'a pas retenu le motif, elle n'a pas retenu le féminicide. Quel deuil spontané, national, Marion Gilbert, cette affaire a-t-elle aussitôt provoqué ?
Dans un premier temps, effectivement, l'opinion publique s'est emparée du sujet. Tout le monde était extrêmement choqué par ce qui est arrivé. Les femmes en particulier. Il y a eu énormément de personnes qui se sont rassemblées donc autour de la station de métro Gangnam où a eu lieu le crime et qui ont collé des post-it donc sur les murs en soutien à la personne décédée, à sa famille, etc. Il y a eu beaucoup de reprises politiques, que ce soit par les actions féministes ou par d'autres, pour parler de ce crime.
Et notamment, pas seulement à Séoul, dans des villes de province aussi, même des villes assez conservatrices. Un article de la chercheuse Kyung Mi Kim parlait de 15 espaces dédiés au deuil public à ce moment-là, dans 9 grandes villes, entre mai et novembre 2016. Ça a vraiment duré longtemps, avec parfois des nuits entières, des prises de parole, un peu comme la méthode aux États-Unis du filibuster, c'est de parler toute la nuit sans s'interrompre des violences faites aux femmes en Corée. 1900 articles dans la presse, entre guillemets, classique, qu'il soit informatif ou d'analyse, comme si, Nicolas Roca, il y avait eu à ce moment-là une prise de conscience de quelque chose qui existe en fait depuis longtemps en Corée du Sud, mais c'est de là que datent toutes les premières archives même qu'on peut avoir sur des mouvements, des mobilisations contre les violences faites aux femmes.
En tout cas, les féministes actuelles en parlent comme un vrai élément déclencheur de leur mouvement, de leur mobilisation, d'un moment de prise de conscience, de, comme le disait Marion Gilbert, on pouvait mourir parce qu'on était femme, être ciblée parce qu'on était une femme. Et dans la suite de ce mouvement, il y a aussi eu une vague MeToo en Corée du Sud et une sensibilisation plus accrue au mouvement féministe.
Oui, la vague MeToo s'en est suivie en fait, puisque elle a commencé en octobre 2017 aux États-Unis à l'initiative de l'actrice états-unienne Alyssa Milano. En Corée du Sud, comme dans de nombreux autres pays dans le monde d'ailleurs, préexistait déjà une grande mobilisation des femmes à ce moment-là. Une parole se libère à ce moment-là, Marion Gilbert, le mot dièse qui circule massivement, j'ai survécu, Sarah Namata, c'est là que ça commence.
Alors je dirais qu'il y a une prise de conscience de sa classe de sexe, si on peut dire les choses ainsi. Les femmes se sont rendues compte qu'en tant que femmes, elles risquaient quelque chose, leur vie, entre autres. Et ce que j'ai pu observer dans ma thèse, notamment, c'est qu'il y a un certain nombre de femmes à ce moment-là qui ont choisi de s'échapper de l'hétérosexualité et donc qui se sont mises à fréquenter plus amplement la communauté queer, pensant ainsi échapper donc aux normes, à l'hétéronormativité, aux normes de genre, à la violence de genre, à la violence sexuelle qui a été hyper médiatisée à ce moment-là avec le meurtre de Gangnam.
Sans nécessairement d'ailleurs s'identifier comme homosexuel ou bisexuel, mais vraiment de trouver une forme de refuge dans la communauté queer.
Voilà, tout à fait. Alors les personnes pouvaient se dire lesbiennes, bisexuelles, etc., gender queer. Maintenant, il y a toute une panoplie de mots pour se définir et définir son identité, qu'elle soit de genre ou sexuelle, ce qui était assez pratique. Et en fait, au-delà de ça, ce qui était important pour elle, c'était de couper un peu les ponts avec ce monde d'hommes et de vivre entre elles. D'ailleurs, à Séoul, il y a énormément de bars lesbiens, par exemple. Il y en a beaucoup plus qu'à Paris, il y en a presque une dizaine. Et ce sont des lieux interdits aux hommes, ce qui n'est pas le cas en France. Même s'il n'y a pas beaucoup d'hommes, c'est pas interdit.
Alors ces femmes ne se satisfont pas des quelques mesures prises après le meurtre, installation de davantage de caméras de vidéosurveillance, des boutons d'alerte dans certaines toilettes, l'affectation de davantage d'avocats commis d'office spécialisés sur ces questions-là. Et c'est vraiment là que prend racine. Il y avait déjà des racines d'un mouvement féministe en Corée, mais un nouveau mouvement féministe qui émerge avec ce compte Twitter « Rendre public le meurtre meurtre de Kangnam, le nom du quartier donc de Séoul. D'ailleurs, qui crée ce compte? Qui sont les organisations? Nicolas Roca, je me tourne vers vous parce que vous avez rencontré certaines de ces organisations qui ont en fait commencé à exister à partir de ce moment-là. Enfin, me semble-t-il, sauf si elles préexistaient, mais les quatre noms, par exemple, ou des organisations qui vont se faire entendre vraiment dans le débat public.
J'ai rencontré différentes, différents mouvements sur les nuances entre les mouvements féministes. Je vais plutôt laisser Marion s'exprimer là-dessus, mais j'ai rencontré en effet des femmes qui faisaient partie du mouvement SAPI 4B, donc les quatre négations, avec l'idée de ne pas avoir de relations sexuelles avec des hommes, de ne pas se marier avec des hommes, de ne pas avoir des enfants avec des hommes, de ne pas sortir avec des hommes, avec cette idée de construire une communauté de femmes qui permettait de s'extraire des normes patriarcales. Il faut savoir qu'il y a une pression aussi sur les femmes qui est énorme en Corée autour des questions de la maternité. C'est le taux de natalité le plus bas des pays de l'OCDE et de loin. Et donc l'idée, c'est de créer des réseaux de solidarité qui permettent de sortir et de s'échapper de ces différentes injonctions. J'ai pu me rendre, alors quand ils étaient fermés dans ces bars lesbiens, justement, parce que en tant qu'homme, il y avait évidemment un biais, mais c'était tout à fait possible d'avoir une discussion avec elles. Il y avait une volonté aussi de médiatiser ces mouvements. Il y a eu différents types de mouvements et de revendications. Il y a également le site Mégalia qui a permis de sensibiliser et d'essayer de renverser toutes les normes et les stéréotypes que subissaient les femmes coréennes.
Marion Gilbert, dans quel terreau féministe ce mouvement-là, la génération de la station de métro Kangnam, avec le choix volontaire d'ailleurs pour ceux qui se revendiquent de ce mouvement de ne pas parler du lieu précis, des toilettes, du karaoké, de telle rue, mais bien d'un quartier où les femmes ne sont pas en sécurité alors qu'il est considéré comme huppé, comme branché, assez central je crois, à Séoul. Dans quel terreau féministe ce mouvement-là puis ses racines? Est-ce qu'il a été encouragé par les féministes plus âgées? Est-ce qu'il emploie les mêmes mots et les mêmes méthodes?
Alors en Corée du Sud, il y a plusieurs générations de féministes. Celle qui est apparue vers 2015, justement avec le site Mégalia, qui a été créé en 2015, on appelle ça les Yang Yang féministes en Corée du Sud. Donc c'est la troisième génération en fait de féministes qui ont des méthodes tout à fait différentes de leurs aînés. C'est ça qui les distingue aussi. Elles font beaucoup de revendications sur Internet et par Internet parce que les violences se sont aussi déplacées. Donc elles ont toujours lieu, dans les mondes réels, mais aussi dans le monde virtuel. En Corée du Sud, il y a énormément de violences sur Internet, de caméras cachées, de deepfakes, etc. Ce qui fait que le féminisme se déplace en même temps. Et donc sur ce site Internet Mégalia, l'idée à la création du site, c'était de singer des forums masculinistes, qu'on a aussi en France, pour dénoncer la misogynie. Et donc, c'était un peu se réapproprier cette misogynie pour la transformer en misandrie et dénoncer. Le problème, c'est que d'un point de vue de l'opinion publique, on voyait que la misandrie sans comprendre le message derrière. Et ces féministes-là ont été catégorisées de féministes radicales pour s'être appropriées un espace de parole qui était masculin.
La stratégie du miroir, c'est comme ça qu'on l'appelle, une stratégie offensive controversée, y compris d'ailleurs chez de plus anciennes féministes en Corée du Sud. Il faut dire que l'histoire n'est pas du tout la même. La génération antérieure était surtout focalisée sur la suppression de ce système d'enregistrement civil de chaque membre d'une famille sous l'autorité unique du père en cas de décès du père où ça serait son descendant mâle le plus proche qui reprenait le flambeau. Et c'est vraiment là-dessus que les féministes jadis en Corée du Sud se sont beaucoup battues. Elles l'ont obtenu en 2005, même si ce Hojuje, c'est comme ça qu'on dit, n'a cessé d'exister qu'en 2008. Et les féministes de cette nouvelle génération ont créé en effet un effet boomerang en retour. Ce sont tous ces hommes qui aujourd'hui se rassemblent régulièrement contre les féministes. Et ce qu'on parle de manosphère qui mène ces campagnes.
Les femmes ne remplissent pas leurs devoirs. Elles ne font pas leur part du travail, mais elles demandent des droits. En plus de tout cela, les féministes détestent les hommes, et c'est pour ça que je pense que le féminisme est un cancer. Ce sont les femmes qui ont commencé le combat, qui ont souhaité commencer cette guerre. Elles ont dit qu'elles appelaient à poignarder leur père. C'est elles qui ont débuté avec ce discours de haine. Je ne déteste pas toutes les femmes, évidemment, je déteste les féministes radicales.
Extrait d'un de vos reportages, Nicolas, pour RFI, Nicolas Roca, pour RFI en 2022, donc dans une contre-manifestation à un rassemblement féministe pour le droit à l'avortement, c'était à Séoul. J'imagine qu'en tant qu'homme, vous avez plus facilement réussi à introduire, à aller parler à ces masculinistes qui vous ont parlé peut-être avec moins de méfiance que d'autres. Le féminisme, pour eux, nouvelle menace après la Corée du Nord, on dirait.
Oui, il y a tout un amalgame qui va être fait, qui va être aussi qui est lié à l'histoire de la Corée, mais aussi à différents mouvements évangéliques qui sont très importants en Corée et qui vont promouvoir une forme d'anticommunisme. En tout cas, voilà, il y a cette rhétorique globale de menace intérieure, de menace rouge intérieure que représenteraient ces mouvements féministes, avec une violence qui est complètement assumée à la manifestation dont vous venez d'entendre les extraits. Ils leur faisaient des cris de porc, ils les insultaient nommément. Voilà, il y avait quand même une menace physique qui était extrêmement impressionnante, avec tout ce discours et cette rhétorique autour notamment du site Mégalia, en disant que toutes les féministes avaient ce discours misandre, sans aucune nuance. Donc voilà, une violence assez assumée et dans la, où ils sont assez fiers et qui va être reprise politiquement. Et c'est là qu'il y a une généralisation un petit peu de ce discours qui va avoir lieu en Corée autour de 2021-2022.
Le président Yoon Suk-yeol, notamment, qui était un antiféministe convaincu, inspiré des mouvements masculinistes en Corée du Sud. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu avec vous de ces réseaux-là? Le forum ILBE, par exemple, qui est la contraction d'Ilgang Besutu, qui veut dire le meilleur du jour, n'a pas été créé en 2016, mais en 2009. Donc il y avait quelque chose qui existait déjà. Comment tout ça a pris de l'ampleur face aux manifestations de 2016 et au mouvement MeToo, Marion Gilbert?
Mégalia a été créé déjà en 2015.
Le site féministe.
Exactement.
2015.
Donc à ce moment-là, c'était avant le meurtre de Kangnam. Je pense que ça a participé à une sorte de visibilité du féminisme et du féminisme radical qui a été pris, comme on vient de l'entendre, d'une manière très premier degré.
Est-ce qu'il ne faut pas les prendre au premier degré, d'après vous? Les féministes radicales en Corée du Sud.
Quand on dit radical en français et radical en coréen, c'est pas le même radical. C'est ça dont il faut se rendre compte. Je vais vous donner un exemple. Donc en coréen, il y a tout un tas d'insultes pour catégoriser les femmes. La plus connue, je pense, en Corée, ça doit être kimchi nyo. Donc ça va être facile à comprendre. Kimchi, c'est kimchi. Nyo, c'est femme. Ça désigne ce qu'on pourrait dire en français une gold digger, une femme qui cherche un homme pour son argent. Ce qu'ont fait les féministes radicales, c'est de dire kimchi nam. Donc, un homme qui cherche une femme pour son argent.
Et ça, c'est radical en Corée
du Sud. Ça, c'est radical.
D'accord. Bon.
Okay. Vous voyez? Et toutes ces insultes-là, elles sont prises au premier degré. Après, bien sûr, sur Mégalia, il y avait aussi des choses un peu plus graves, si on peut dire. Et d'ailleurs, le site a été fermé en 2017, après des poursuites judiciaires. Le forum ILBE que vous citiez, lui, n'est toujours pas fermé, il existe encore.
Le forum masculiniste, lui, il peut continuer à déblatérer sans problème, alors que le site féministe a fermé.
Tout à fait.
Mais donc, pour avoir un aperçu de cette masculinosphère, ça ressemble à quoi? Il y a ILBE, qui est toujours ouvert. Le mouvement Solidarité Masculine, par exemple, à sa tête, Bae In-Q, 34 ans, connu sous le pseudo Prince. Qui est-il? Et surtout, est-ce qu'il a vraiment des adeptes, des gens qui le suivent? Nicolas Roca, vous l'avez rencontré, je crois?
On l'entend au tout début.
Oui, au tout début de notre émission.
C'est
celui
qui
dit qu'il faut tuer les femmes.
Exactement. Alors, je suis allé vérifier ce matin, il a encore 750 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, avec son mouvement de solidarité masculine. Il organise des raids numériques contre des féministes. C'est une figure de proue. Après, il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes plus anonymes. Il y a ces gens qui sont très mobilisés et très actifs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces idéaux, entre guillemets, masculinistes, ou cette idéologie masculiniste ou ouvertement antiféministe, elle s'est répandue très globalement. On peut voir, par exemple, la carte des... Quand on regarde les résultats électoraux, il y a une large part des jeunes hommes de la génération 18-35 ans qui va se ranger du côté du camp conservateur, alors que les femmes, elles, se rangent plutôt du camp démocrate, ou alors le jeune candidat à la dernière élection présidentielle, Lee Chun-sok, qui était l'architecte un petit peu de cette idéologie masculiniste au sein de la campagne de Yoon Suk-yeol en 2022. Il s'est présenté, il a eu autour de 10% 10% des voix, et il était soutenu massivement par les jeunes hommes. Et ce discours a tellement imprégné l'opinion publique que le symbole du site Mégalia, qui est deux doigts, le pouce et l'index rapprochés afin de suggérer que les hommes sud-coréens auraient un petit sexe, et ben ce symbole-là, les masculinistes ont commencé à le voir un petit peu partout. Donc c'est-à-dire quand il y a eu une campagne de publicité d'une chaîne de supermarché montrant, faisant la promotion d'un barbecue, donc deux doigts attrapant une saucisse, ils ont demandé de bannir cette publicité, idem pour des marques de poulet ou autres. Et ça a fonctionné à tel point que les entreprises ont présenté leurs excuses, que les campagnes de pub ont été retirées. Donc, grâce à leur présence numérique assez raide, ça a infusé dans la société sud-coréenne.
La Corée du Sud n'en est pas à reconnaître le suicide féminicidaire comme l'a fait le Chili dont on a parlé lundi. Or, il y a eu plusieurs cas de femmes qui ont décidé d'en finir alors qu'elles subissaient des attaques de cyberharcèlement d'une violence inouïe, parfois juste parce qu'un homme ou deux ont cru repérer dans sa gestuelle un rapprochement malencontreux du pouce et de l'index, dont vous rappeliez que c'est pris comme une façon de se moquer de la taille du sexe des hommes sud-coréens. C'est arrivé par exemple en 2022, une streameuse s'est suicidée après 3 années de cyberharcèlement, parce qu'en Corée du Sud, ça se passe aussi beaucoup en ligne.
Mon numéro de téléphone a été publié en ligne et je reçois des appels constamment. Sur les 4 derniers jours, on parle d'une 20aine d'appels menaçants. Les gens disent en ligne, en voyant sa tête, je comprends parfaitement pourquoi est-ce qu'elle est féministe. Je suis harcelée en ligne sur tous mes réseaux sociaux.
Alors la Corée du Sud n'en est pas à reconnaître, et c'est encore un extrait de vos reportages, Nicolas Roca, pour France Culture cette fois, en 2022. La Corée du Sud ne reconnaît pas le suicide féminicidaire. En revanche, est-ce que la justice sud-coréenne, Marion Gilbert, a ne serait-ce qu'une fois qualifié un crime de misogyne et employé le terme de féminicide? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ou un crime misogyne, au moins, cette qualification-là, quand par exemple en novembre 2023, une jeune femme qui travaillait de nuit dans une épicerie a été rouée de coups par un homme parce qu'elle portait les cheveux courts, c'était un homme du réseau Men's Solidarity. Est-ce que là, il y a eu quand même quelqu'un pour dire que la justice sud-coréenne devait prendre en compte cet élément-là?
Alors, effectivement, en Corée du Sud, on utilise beaucoup plus les réseaux sociaux, Internet, que même en France, toutes les générations utilisent Internet. Et il y a tout un tas d'affaires assez récurrentes, dont celles que vous citiez, et qui ont une portée médiatique très importante via les réseaux sociaux, et qui sont ensuite discutées, débattues, certes sur les réseaux sociaux, mais ça finit par toucher toute l'opinion publique et également la justice. Je peux donner un exemple, c'est celui de Kim Jae-yeon, donc ça remonte un peu plus, mais cette femme avait posté sur Twitter une image d'elle avec un t-shirt où il y avait écrit « Girls do not need a prince », donc les femmes n'ont pas besoin d'un prince. Et elle s'est fait virer de chez Nexon. Donc c'était une entreprise de jeux vidéo où elle travaillait. Et là, pareil, ça avait fait un tollé, au point que le parti de la justice, donc c'était un peu emparé de l'affaire et avait commencé à créer des t-shirts « Men do not need a princess », donc l'inverse, les hommes n'ont pas besoin d'une princesse. Et donc, il y avait eu beaucoup de manifestations devant le siège. Parfois, ça part d'Internet et vous voyez, ça grossit. Et ça donne aussi des manifestations en dehors d'Internet. Et donc, la personne Kim Jae-yeon avait eu réparation par rapport à ce qui lui était arrivé.
Donc, il arrive que la justice se prononce en faveur de la femme victime, même si ça n'est pas arrivé très souvent, si j'ai bien compris.
Il faut que ces affaires soient vraiment portées par l'opinion publique, par les associations, pour que ça finisse par avoir un impact.
Et le numérique est à la fois un terrain de mobilisation, beaucoup, mais surtout un terrain de harcèlement. Vous avez commencé à nous parler tout à l'heure de ces pratiques de caméras cachées, qui ont un nom d'ailleurs en Corée du Sud,
Molka.
En particulier Molka. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ça a réellement créé une psychose? Quelle ampleur il faut donner à ce phénomène-là?
Alors oui, ça a vraiment créé une psychose. Parce que pour le coup, je vais dire quelque chose que Nicolas Roca n'a sans doute pas vu. Quand vous allez dans des toilettes publiques, il y en a vraiment beaucoup en Corée du Sud. C'est pas comme en France, on va très souvent dans les toilettes publiques ou les toilettes des cafés, etc. Il y a plein de trous dans les murs. Parce que pour installer une caméra cachée, il faut pouvoir percer un petit trou et la mettre. Et en fait, dans tous ces trous, les femmes mettent du papier toilette pour boucher, pour être sûre que si jamais il y a une caméra, elle ne pourra pas filmer quoi que ce soit. Et des fois, vous arrivez dans une toilette où il y a des centaines de trous, avec des centaines de papiers toilettes voilà, qui les ont bouchés. Et c'est assez impressionnant. Et du coup, même si on n'y pense pas, parce que bon, en tant qu'étrangère, c'est vrai que je pense moins à ça quand je vais aux toilettes en Corée du Sud, ben, en voyant ça, ça crée un effet de psychose.
Il y a des cas graves également de réseaux littéralement de vidéos sexuelles extorquées sous la menace via des messageries comme Telegram, des mineurs surtout qui racontent être contactés par des hommes qui leur promettent des sommes d'argent, leur envoient des cadeaux style téléphone. En fait, elles sont piégées parce qu'elles sont obligées de mettre leur numéro de téléphone. Au départ, elles se doutent pas quoi que qu'elles seront ensuite piégées et qu'on va leur extorquer des vidéos sous la menace. Un vaste réseau a été démantelé en 2020. Chambre N, on l'appelle comme ça. Nicolas Roca, la plus jeune des victimes, avait à peine 10 ans. Le fondateur de ce réseau, 24 ans, arrêté, s'était quand même battu pour les droits des femmes durant ses études. On a appris ça de lui un peu plus tard. Quand le gouvernement coréen légifère contre le harcèlement en ligne, comme là récemment au mois d'avril, est-ce qu'il dit que cela vise surtout à protéger les femmes? Est-ce que ce sont des mesures prises pour les femmes parce qu'on les entend? Ou c'est jamais présenté comme ça quand il y a une mesure prise pour les protéger?
C'est rarement présenté comme ça à ma connaissance. Après, ça peut l'être parce que cette affaire, par exemple, de chambre N, N's Room, a profondément choqué l'opinion publique coréenne. Coréenne, et en même temps, ce sont des crimes qui reviennent. Cette semaine, un homme a été condamné à nouveau parce qu'il avait un large réseau d'extorsion, encore une fois, de victimes, voilà, pour leur soutirer des images pornographiques et pédopornographiques. C'était encore un réseau plus large, 260 victimes, dont de nombreuses mineures avec les mêmes méthodes. Donc, même s'il y a des mesures qui sont prises, elles ont du mal à endiguer ce qui est quand même récurrent en Corée du Sud. Et voilà, même s'il y a des condamnations tout de même voilà assez sévères pour des 40 années de prison ou la prison à perpétuité pour les auteurs de ces crimes, c'est un processus long. La médiatisation, comme le disait Marion Gilbert, joue aussi beaucoup et influence beaucoup tout de même les décisions de justice. Par exemple, pour N's Room, au moment où il y a eu les premiers articles qui sont sortis dans, par exemple, le journal de gauche Hankyore, il n'y a pas eu un écho médiatique gigantesque derrière. Ça a mis beaucoup de temps avant que voilà, l'opinion publique s'en saisisse et qu'il y ait eu des poursuites.
Donc d'où vient le déni, Marion Gilbert, quand quelqu'un est pris la main dans le sac, d'une certaine façon, que ce soit un homme lambda ou même un responsable politique, là, il y a un choc, on évoque des questions de morale et parfois des condamnations sont prises, mais il n'y a pas de prise de conscience qu'il y a quelque chose de collectif qui se joue aussi.
En fait, je pense que, et c'est là tout le combat des jeunes féministes, c'est d'essayer de faire reconnaître la dimension systémique de tout ce qui se passe. Et en fait, c'est extrêmement difficile parce qu'à chaque fois, la conclusion, c'est que bah, la personne qui a fait ça, c'était un fou ou c'était vraiment un homme pas bien. Alors qu'en fait, depuis le début de l'émission, on cite plein de cas et vraiment, ça donne l'impression que c'est hyper récurrent. Comme vous le disiez, Nicolas Roca. Et il y a même certaines affaires, si on parle par exemple du Burning Sun, je ne sais pas si... voilà.
Qu'est-ce Donc, que c'est le Burning Sun,
c'est à la base une boîte de nuit qui était tenue donc, par une star de K-pop qui faisait partie du groupe Big Bang. Et donc un soir, il y a eu une agression dans cette boîte de nuit. C'était très bizarre. Et puis, une femme a été agressée, un homme l'a défendue, l'homme qui l'a défendue n'a pas été soutenu. Et donc, l'opinion publique a décidé de prendre ça un peu à bras-le-corps parce que en Corée du Sud, donc, vous pouvez faire des pétitions. Et si la pétition dépasse 200 000 signatures, elle est obligée, de...
Qui est une suite législative.
Voilà, exactement.
Je vous en prie.
Exactement. Et c'est ce qui est arrivé pour le Burning Sun. Donc, on avait bien l'impression au début que tout le monde essayait de faire taire ce scandale pour pas que ça explose. Et quand ça a explosé, c'était tellement énorme. En fait, ça a révélé un trafic prostitutionnel. Mais c'est-à-dire que les femmes qui venaient dans ce club se faisaient droguer et étaient ensuite prostituées à des hommes d'affaires, etc. Et donc, il y a plusieurs stars de la K-pop qui étaient impliquées. Donc, ça a fait encore plus... est-ce qu'on peut dire le buzz dans la société, parce que c'est incroyable, les stars de K-pop, quand on les regarde, elles sont toutes lisses, elles ont l'air gentilles, jamais de la vie on imagine qu'elles sont capables de ça. Donc ça a fait un vrai scandale à ce moment-là, oui.
Un scandale que même le parti conservateur au pouvoir, mené par le président Yoon Suk-yeol à l'époque, qui était ouvertement antiféministe, n'a pas pu ne pas entendre, ne pas considérer. Il faudrait pouvoir se parler, a dit par exemple le conseiller jeunesse du parti conservateur à ce moment-là.
La frustration et la colère des jeunes hommes du pays, que leur opinion soit juste ou non, sont palpables. C'est très inquiétant. Mais si chacun se contente de défendre son propre point de vue, cette colère bouillonnante parmi les jeunes pourrait faire surface et se répandre dans la société, ce qui pourrait entraîner des incidents graves comme on n'en a jamais vu en Corée. La société doit avoir des conversations dans son ensemble pour apaiser ces tensions et ne pas se contenter de dire que les féministes ont raison et que les hommes ont tort. Cela n'arrangera en rien la frustration et la colère des jeunes.
Le conseiller jeunesse du Parti conservateur, interrogé par France 24 il y a deux ans, alors notre série porte sur la façon dont les États prennent en compte aujourd'hui les demandes des femmes de les mieux protéger. Alors pendant quatre ans, elles n'ont pas pu compter sur le président lui-même. Quatre ans, c'est ça? Non, le mandat du président.
Élection 2022 et puis une fin chaotique.
Oui, il y a un an ou deux, donc en fait pas quatre ans.
En décembre dernier, ça va bientôt faire
un an. Pendant qu'il était là, Yoon Suk-yeol, il s'est dit antiféministe, vous l'avez rappelé, vous aviez suivi sa campagne d'ailleurs, Nicolas Roca. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que lui, président, était ouvertement féministe, à la fois dans le choix de ses mots, dans le choix qu'il a eu pendant la campagne, même pour les législatives en 2022, comment ça s'est manifesté?
Alors c'était surtout une rhétorique de campagne, avec une volonté de cibler l'électorat jeune, masculin, qui avait voilà une grande frustration, qui peut être liée au service militaire, à...
Ah, mais ça, c'est intéressant d'en parler. Une 18 mois le service militaire.
Ou 22 selon les.
Ou 22, voilà.
La section dans laquelle ils sont engagés.
Et ça, ils le mettent souvent en avant, les hommes en Corée du
voilà,
Sud, de dire qu'ils sont pénalisés par rapport aux femmes et qu'elles en remettent une couche.
Exactement. Donc il y a peut-être en gros des discriminations contre les femmes, mais de toute façon, eux sont discriminés par rapport à cela. Et après, les chercheurs coréens ajoutent qu'il y a aussi une précarité économique entre guillemets, ils sont face à des défis qu'ils n'avaient que leur père par exemple ou leurs parents n'avaient pas, et donc toute cette frustration ailleurs entre guillemets elle peut se porter vers l'étranger ou autre, et là elle se porte sur les femmes. Donc il y avait une vraie stratégie électorale de Yoon Suk-yeol avec, on peut dire, comme mesure phare de supprimer le ministère de l'égalité des genres, qui dans son nom coréen avait la mention de femme, en disant il faut pas, un peu ce qu'on a entendu, il faut pas mettre les hommes et les femmes dos à dos, il n'y a pas d'inégalité systémique, voilà, avec aussi la volonté de supprimer certains quotas au sein de son gouvernement et sur les listes électorales ou dans certaines administrations publiques, et voilà. Donc les conséquences concrètes, ça a été une chute des financements pour certaines associations qui faisaient la promotion de l'égalité des genres, un discours, une rhétorique qui a été très présente, notamment durant la campagne et durant sa présidence.
Notamment, il insistait beaucoup sur le fait qu'il fallait augmenter les peines, non pas pour ceux qui commettaient des violences sexuelles, mais pour les dénonciations calomnieuses de viols ou d'agressions sexuelles, comme si c'était massif, les dénonciations calomnieuses. Donc, est-ce qu'il a mis à exécution tout ce qu'il pensait faire pour couper l'herbe sous le pied, pensait-il, des féministes radicales, mais qui pénalisaient en fait absolument toutes les femmes, supprimer les lignes téléphoniques d'urgence pour les femmes victimes de violences, par exemple, supprimer ce ministère de l'égalité des genres. Est-ce qu'il a mis ces menaces-là à exécution, Marion Gilbert?
Alors non. Je pense que, comme vous le disiez, Nicolas Roca, il y a une vraie rhétorique d'élection. C'est-à-dire que même avant lui, il y avait d'autres candidats qui proposaient de supprimer ce ministère des femmes et de la famille, qui s'appelait à l'époque comme ça.
Mais parce qu'il y a beaucoup plus d'électeurs hommes que femmes en Corée du Sud, parce qu'on pourrait très bien, tout aussi bien se dire qu'un discours féministe pourrait aussi être électoraliste dans certains cas.
Disons qu'après 2015, c'était assez simple de s'attirer un certain électorat pour les raisons qui ont été évoquées juste avant, donc l'électorat masculin jeune, de cette manière. Donc le ministère des femmes et de la famille n'a pas été supprimé. En revanche, le nouveau président a changé le nom et c'est devenu le ministère de l'égalité des sexes et de la famille.
Mais voilà. Et sur le fond de ses missions, est-ce que ça a changé? C'est un ministère qui avait été créé en 2001. Est-ce que d'ailleurs il a réellement défendu les femmes?
Il a été surtout accusé de devenir un peu radical depuis 2015 pour avoir pris certaines positions qui sont jugées radicales.
Lesquelles, par
notamment
exemple
sous Moon Jae-in.
Quand il a voulu réviser la législation sur le viol, c'est ça en 2000... Non, c'était 2023, donc c'était pas
j'ai
sous
pas
ce président-là. En tout cas, quand en 2023, il veut réviser la législation sur le viol pour inclure la notion de non-consentement et élargir les critères de qualification de ce crime sexuel, il faut rappeler que le crime de viol en Corée figure dans le code pénal depuis 95, année où un chapitre « crime de viol et d'abus sexuels » a fait son apparition, alors qu'auparavant, ils étaient sous-catégorisés dans un chapitre « crime lié à la chasteté ». Et je cite encore Kyung Mi-ki, le ministère de la Justice s'y était opposé à l'époque. Avec quels arguments et où est-ce qu'en est ce débat-là, Nicolas Roca?
Alors, je n'ai pas suivi exactement ce débat-là, mais il y a eu un changement de discours très clair avec Moon Jae-in qui s'était dit féministe, notamment durant la campagne, et une évolution ensuite. En fait, je pense qu'en effet, d'abord, il y a une notion électoraliste, mais ensuite, il faut savoir que Yoon Suk-yeol, s'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes ces mesures-là, c'est parce qu'il était bloqué d'un point de vue électoral, tout simplement, sans majorité à l'Assemblée. Mais il n'y a pas une vraie volonté politique dans le camp démocrate non plus d'avancer ouvertement sur la défense et la protection des femmes. Par exemple, sur le droit à l'avortement, il y a eu la Cour constitutionnelle qui a dit que son interdiction était inconstitutionnelle, mais on est toujours dans un vide législatif aujourd'hui là-dessus. Il y a un débat de nouveau pour parler des avortements, des pilules abortives à l'Assemblée nationale, mais ça n'avance pas vraiment. Donc il y a pas de vraie portée politique. Il y a tout de même des féministes au sein de l'Assemblée nationale et des gens qui portent ce discours, mais qui sont extrêmement minoritaires, et donc il y a assez peu d'avancées sur l'arsenal législatif pour la défense des droits des femmes.
Marion Gilbert, le Parti démocrate n'a pas essayé, ne serait-ce que de discuter avec les féministes, parce qu'il me semble que les femmes en Corée du Sud ont plutôt très longtemps voté pour le Parti démocrate, en tout cas c'est ce que disent les différentes statistiques, et le parti avait essayé d'intégrer même des féministes dans ses rangs, ça n'a rien donné, il n'y a aucune conséquence aujourd'hui pratique.
En fait c'est très compliqué pour un parti d'avoir vraiment des féministes dans ses rangs, parce que directement vous êtes étiqueté de féministe, sachant que féministe égale féministe radicale pour la majorité de la population. Donc c'est très compliqué, mais c'était plutôt le Parti des Verts qui s'est vraiment emparé de la question féministe. Mais voilà, ça reste à un pourcentage très très faible dans les élections. Donc c'est difficile d'avoir une portée ensuite législative, etc.
Et vous rappeliez à quel point les crimes sexuels ou les violences sexuelles peuvent encore, y compris au niveau politique aujourd'hui, faire scandale, mais seulement quand une personne est identifiée, et c'est contre cette personne que la vindicte sera dirigée, en tout cas politiquement, quand un artiste de K-pop par exemple est mis en cause. Et bien justement, on écoute une chanteuse de K-pop, Hotfelt, c'est sa chanson Iron Girl, où elle dit justement qu'elle est une Iron Girl avec des bras forts comme le fer et des jambes comme l'acier. 한 발 뒤로 물러섰다고 쳤다고 생각하지 두 눈에 보이지 않아 끝이라 말들 하지 위기는 꼭 기회 상처는 가보 시도해 No one can break it I got my heart Do you see that? 절망이란 미로 속에 길을 잃어도 선택의 기로에서 비로소 난 나를 믿어 일어서야 해 죽지 않았으니 강해질 뿐이야 역전승이 바로 내 전문 분야 우세같이 단단한 팔 강철 같은 다리 아 I'm Iron Girl 지를 테면 찔러봐 멋대로 퍼부어봐 I'm Iron Girl 사람들은 말하지 넌 껍데기일 뿐이라고 Now you see me naked on the ground 사람들
떠나는 중인 걸 성장하는 중인 걸 내 열정은 못 죽일 걸 알아둬라 하나도 나 두렵지가 않아 결국 편하더라 떠나더라 허나 나는 남아 껍데기 아닌 알맹이 펀데기 아닌 남인임을 증명해낼 준비하면 기회를 게 분명해 돈과 명예보다 더 소중한 내 음악 끝났다고 누가 그래 이건 끝내주는 음악
I One Girl, la fille en fer de la chanteuse coréenne Hotfelt, ancienne membre d'un groupe de K-pop et qui souhaite aujourd'hui voir plus de femmes s'engager dans la lutte féministe pour vaincre, dit-elle, le sexisme et la misogynie dans cette industrie en particulier. Ses chansons parlent d'émancipation, de liberté. I One Girl, vous écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre série sur les États sommés d'agir face aux violences faites aux femmes, aujourd'hui en Corée du Sud, où l'affaire dite du meurtre de Kangnam a réveillé les consciences. C'était en 2016. Au Japon aussi, une femme a témoigné d'un viol et brisé un tabou.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
En 2015, un puissant journaliste m'a violée. Il était très proche de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe et il avait même écrit sa biographie. J'ai dû mener ma propre enquête sur ce viol. Ça m'a pris 10 ans.
Un témoignage recueilli par Simone Media, c'était en 2017. La journaliste de télévision Shiori Ito dénonce publiquement le viol dont elle a été victime 2 ans plus tôt par un journaliste qui était à l'époque chef du bureau à Washington de la grande chaîne privée coréenne TBS et biographe du Premier ministre Shinzo Abe. Elle était jeune stagiaire au bureau de l'agence Reuters à Tokyo et un soir, après un dîner professionnel, il l'emmène à son hôtel pour la violer. Il la traîne, serait plus juste d'après ce que montrent les caméras de vidéosurveillance. La jeune femme paraît inconsciente et dit d'ailleurs dès le départ qu'elle a été droguée. Shiori Ito a été la première à parler publiquement du viol qu'elle a subi. Son histoire est aujourd'hui citée par toutes les femmes qui, au Japon, dénoncent les violences sexuelles et les dysfonctionnements de la justice. Bonjour Yukiko Ito.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante en sociologie et études de genre à l'INALCO et à l'université Panthéon Assas. Alors, quand Ito Shiori prend conscience de ce qui lui est arrivé en avril 2015, à qui s'en remet-elle? Est-ce qu'il est une évidence pour elle, au Japon, de porter plainte?
Non, pas du tout, parce que la police n'était pas gentille et aussi, c'était la première fois qu'elle a subi le viol. Et donc, la police, il faut porter la plainte, il faut subir de la même façon le viol qu'elle a subi réellement pour... porter plainte, donc c'était très difficile pour elle.
Vous voulez dire que quand on porte plainte au Japon pour un viol, on doit reconstituer la scène d'une certaine façon devant les policiers pour expliquer ce qui est arrivé.
Sur le même lieu.
Sur le même lit?
Oui.
D'accord, donc elle a dû emmener les policiers dans l'hôtel. En tout cas, ça met du temps, c'est vrai, un mois jusqu'à ce que la plainte soit enregistrée. Mais il y a quand même un mandat d'arrêt à ce moment-là qui est émis contre le journaliste. Ça ne dure pas longtemps. Quelqu'un l'annule, ce mandat d'arrêt. On pense à un haut cadre de la police. En tout cas, l'affaire est classée sans suite.
Oui, l'affaire a été classée en mai 2017. Et donc, c'est pour ça que Ito Shiori a déposé la demande de réexamen de la décision du procureur. Et à cette occasion, elle a tenu une conférence de presse à visage découverte et sans anonymat. Et la presse traditionnelle, comme les quotidiens et les télévisions, n'ont pas vraiment suivi cette affaire parce qu'il y avait aussi une notion de couvrir les affaires avec les informations officielles de la part de police sur les viols.
Et on imagine que comme l'auteur du viol était très proche du Premier ministre, avait écrit sa biographie, et la Première Dame à l'époque likait, comme on dit, sur les réseaux sociaux, toutes les publications que se faisait journaliste. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de doutes sur l'impartialité à ce moment-là de la justice. Donc, son recours, vous dites qu'elle a déposé un recours auprès d'une commission de révision des décisions du procureur. Son recours est rejeté en septembre 2017.
Oui.
Elle dépose alors une plainte au civil.
Voilà.
Donc, qu'est-ce que ça change?
Le procès pénal n'a pas marché et donc elle a déposé une plainte dans le cadre de procès civil. Et à ce moment aussi, il y a aussi une réforme du code pénal Et donc, il y a une conscientisation de la part de justice. Et à ce moment aussi, il y a le développement international du mouvement MeToo sur les réseaux sociaux à partir des États-Unis dont on a parlé tout à l'heure. Et bon, ça a porté à l'échelle internationale, il y a une focus sur Ito Shioli comme figure singulière ou symbolique du mouvement MeToo au Japon.
Même si elle a quitté le Japon entre-temps, elle dit d'ailleurs, je ne sais pas si elle est rentrée entre-temps, mais elle a vécu longtemps à Londres et elle disait qu'elle n'aurait jamais porté plainte si elle ne savait pas qu'elle avait un moyen d'aller vivre à l'étranger parce que sa vie serait devenue infernale sinon.
Voilà, elle a suivi des harcèlements en ligne et les harcèlements réels aussi. Il y a des téléphones de menaces aussi, il y a sur réseaux sociaux. Elle a subi des harcèlements en ligne. Il y a une députée, une femme politique de PLD, Parti Libéral Démocrate, qui a publié un tweet en disant que échec de la promotion canapé, etc., etc. Et donc voilà, elle a subi énormément de harcèlement et donc elle a dû quitter le Japon pour s'installer ensuite à Londres, pour mener une vie assez tranquille pour déposer la plainte aussi en même temps.
Même si en juillet 2022, la Cour suprême au Japon a reconnu le caractère non consenti du rapport. Entre-temps, vous l'avez dit, Yukiko Ito, la définition juridique du viol a changé au Japon. Entre 2015 et 2022, année qui sépare le viol d'Ito Shori de la décision de la Cour suprême japonaise, le code pénal avait évolué sur la question. Dans quel sens? Cette réforme de 2017, qu'est-ce qu'elle a changé?
Il y a deux réformes du code pénal entre-temps et la première réforme très importante du code pénal concernant les agressions sexuelles, c'était la première fois depuis 110 ans. Et donc, le viol était considéré à cette époque comme moins grave que le vol. Et la ministre de l'époque a pris l'initiative de changer cette loi et donc ça a changé la définition du viol en élargissant la définition des victimes et les hommes pour la première fois font partie désormais des catégories de victimes de viol.
Ils peuvent être reconnus comme victimes de viol. Les peines de prison pour viol sont passées par ailleurs de 3 à 5 ans. Un an après cette décision de la Cour suprême ou quelques temps plus tard, le Parlement a voté à l'unanimité la définition d'un crime sexuel comme un acte sexuel non consenti. Est-ce que l'affaire Shiori Ito a contribué directement à cette nouvelle définition?
Alors, entre-temps, il y avait un mouvement, la mobilisation collective qui s'est étendue dans tout le Japon, qui s'appelle le Flower Demo. C'est à la suite des 4 jugements d'acquittement qui ont été rendus au Japon en mars 2019. Et contre ces jugements, il y a une féministe qui fait partie de la génération précédente qui a lancé un tweet avec hashtag MeToo et with you, donc avec vous, avec toi, en 2019. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de témoignages qui sont collectés et aussi les médias commencent à couvrir des affaires, des violences sexuelles sans les discours de l'autre partie, c'est-à-dire que les agresseurs. Et donc, au centre de cette mobilisation collective, Shioli Ito était considéré comme une figure symbolique de mouvement MeToo. Et cette mobilisation a mis en avant la lutte contre les violences sexuelles il faut le consentement. Il faut consentir pour avoir le rapport sexuel. Mmh. C'était la revendication, une des revendications de cette mobilisation.
Donc, elles ont été entendues sur la définition du viol. Est-ce que sur les fonctionnements ou dysfonctionnements, surtout de la justice, l'écoute de la victime par les policiers, la criminalisation des auteurs, est-ce que là-dessus, il y a eu vraiment des avancées où les hommes qui sont accusés de violence sont encore largement acquittés au Japon?
Voilà, il y a beaucoup d'affaires médiatisées et donc il y a des célébrités qui ont été accusées médiatiquement, mais ces hommes n'ont pas été accusés dans le cadre de pénal et donc il n'y a pas de processus légal qui sont mis pour le processus voilà. Le procès pénal et donc le dysfonctionnement qui est aussi en cours, même après deux réformes importantes du code pénal au Japon.
Quand en mars 2019, par exemple, 4 hommes sont acquittés qui comparaissaient pour des violences sexuelles, les activistes, et pas seulement les femmes au Japon, beaucoup sont déçus et en colère, beaucoup se rassemblent à Tokyo, par exemple, le 11 avril 2019, on a appel à manifester sous les hashtags MeToo ou With You. Alors il y a 400 personnes qui arrivent, 400 personnes au Japon, c'est beaucoup, nous disiez-vous avant l'émission.
Oui, au Japon, il y a moins de gens qui s'engagent politiquement, il y a peu de gens qui descendent dans la rue, et donc s'il y a 400 personnes qui arrivent, 400 victimes et 400 sympathisants envers les victimes arrivent dans le même lieu, c'est assez énorme comme chiffre, et donc cette mobilisation qui a commencé à Tokyo s'est étendue dans un an tout le Japon aux 47 départements japonais. Mmh. Et donc cette prise de parole, ça fait une grande mouvement pour les activistes, pour les féministes et aussi pour Hitoshi Ohri, pour soutenir, pour être soutenu dans le cadre de procès civil.
Et pour conclure, Yukiko Ito, que devient Norii Yamaguchi, cet homme qui a violé Hitoshi Ohri ou Shiori Ito, selon comment on le dit?
Donc, il n'a jamais été accusé dans le cadre de pénal. Donc, il a juste payé le dédommagement envers Hitoshi Ohri dans le cadre de procès civil. Mais bon, il continue à mener tranquillement sa vie en
et
tant
sa
que sa carrière en tant que journaliste maintenant indépendante.
Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Alors elle, Shiori Ito, a fait de son histoire un livre puis un documentaire, La Boîte Noire, documentaire d'ailleurs nommé aux Oscars en mars dernier. Merci Yukiko Ito, doctorante en sociologie et études de genre à l'INALCO et à l'université Panthéon-Assas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Marion Gilbert, également sociologue enseignante à l'université Paris-Cité et à la Sorbonne. Votre thèse porte sur les violences faites aux femmes en Corée du Sud à l'EHESS. Et merci Nicolas Roca, journaliste, ancien correspondant à Séoul. Vous êtes aujourd'hui journaliste au service international de RFI. Merci à tous les trois.
Merci.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Votre fil rouge ce matin, Catherine, la pollution de l'eau, une ressource doublement menacée aux États-Unis.
Par des nitrates agricoles, mais aussi par de gigantesques centres de données, d'Amazon notamment, énergivores, qui s'installent dans des régions où l'eau se raréfie, alerte NBC News et l'agence Bloomberg. C'est ce que raconte aussi le magazine Rolling Stone dans un reportage fleuve. Alors, pardonnez le jeu de mots, mais cet article est très long, réalisé avec le Food and Environment Reporting Network. Direction le comté de Morrow, dans l'est de l'Oregon, région essentiellement désertique, son sol poreux et sableux est inhospitalier pour toutes les cultures, mais au cours des dernières décennies, le comté de Morrow a été métamorphosé par un groupe d'élus locaux et d'agriculteurs qui ont tiré parti des engrais chimiques pour faire fleurir le désert, décrit le magazine Rolling Stone. Cet essor agricole s'est accompagné de maladies inexpliquées, de cancers aux reins notamment, mais aussi de fausses couches, comme l'a remarqué Jim Doherty, un éleveur de bétail entré en politique en 2016. Il a demandé des analyses des nappes phréatiques du comté et elles sont contaminées par des nitrates, par des engrais utilisés par des méga-fermes et des usines agroalimentaires où travaillent la plupart de ces électeurs. Danger pour l'eau potable et pour les 45 000 habitants du comté dont la plupart dépendent de puits privés qui pompent cette nappe phréatique, précise Rolling Stone. L'eau a été encore plus menacée, ajoute le magazine américain, lorsqu'en 2011, Amazon a inauguré son premier centre de données dans le comté de Morrow, un entrepôt de près de 930 mètres carrés, abritant des rangées et des rangées de serveurs informatiques. 6 autres centres ont été construits depuis et ils nécessitent beaucoup d'eau pour refroidir les serveurs, rappelle Rolling Stone. L'eau chargée de nitrates, épuisée donc dans cette nappe phréatique, elle circule dans les centres de données, une partie de l'eau s'évapore, mais les nitrates restent, ce qui augmente leur concentration, menaçant encore plus les ressources disponibles dans l'Oregon comme dans le Nevada, ajoute NBC News.
Data centers, the new frontier of tech, popping up across the country, requiring a minimal workforce to operate, but they come with some big trade-offs.
Les centres de données, nouvelle frontière technologique pour les États-Unis, ils fleurissent partout dans le pays, nécessitent un minimum de main-d'œuvre pour fonctionner, mais leur exploitation comporte des inconvénients majeurs comme la forte consommation d'électricité et d'eau, l'équivalent de la consommation nécessaire à 1,5 million de personnes. Et ce chiffre devrait encore augmenter avec l'essor de l'IA, explique la chaîne télévisée NBC News. Une enquête de Bloomberg a révélé que les deux tiers des nouveaux centres de données aux États-Unis sont construits dans des régions qui souffrent déjà de pénurie d'eau, ce qui explique la résistance locale parfois d'habitants dans des États comme l'Arizona ou le Texas où la sécheresse est un problème majeur, explique NBC News. La ressource de l'eau, un enjeu de taille aux États-Unis notamment, souligne le magazine Rolling Stone. Selon Goldman Sachs, l'intelligence artificielle pourrait générer entre 5 000 et 19 000 milliards de dollars pour l'économie américaine.
Pour la suite de votre revue de presse internationale, Catherine, gros plan sur une entreprise finlandaise qui récupère des déchets plastiques.
Dans les rivières des Philippines ou de l'Inde pour les empêcher de contaminer les fleuves et les océans. Pour ce faire, imaginez d'immenses filets de pêche, des barrages flottants qui tamisent les rivières philippines pour capturer donc ces déchets plastiques, décrit Nikkei Asia. C'est la méthode employée par River Recycle, une start-up finlandaise qui s'emploie notamment à nettoyer la rivière Burangin à Manille, précise l'agence de presse finlandaise, HTET, avant que les déchets plastiques n'atteignent le fleuve Pasig, l'un des plus pollués au monde, rappelle le Forum économique mondial. Des Philippins sont ensuite payés pour retirer à la main les déchets plastiques de ces barrages. Impossible de recourir à des machines à cause des courants. Parmi les employés, des habitants des bidonvilles notamment, indique le centre finlandais de compétences en entreprise sociale. Ces Philippins mettent les déchets dans des sacs, collectés quotidiennement, amenés ensuite vers une usine où le plastique est trié, lavé, broyé, pressé à 200 degrés pour former ensuite des panneaux de construction, rapporte Nikkei Asia, vendu comme alternative au contreplaqué. Alors, tout n'est pas rose ou vert dans ce système. Le chauffage du plastique dégage une odeur désagréable, souligne Nikkei Asia, même si River Recycle affirme que l'impact environnemental est minime.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Non, pardon, c'était pas du tout la fin de votre revue de presse, pardon. Combien touchent les personnes qui collectent ces déchets plastiques ?
Impossible de le savoir, indique Nikkei Asia. L'entreprise finlandaise River Recycle explique que ses salariés touchent un salaire proportionnel à la quantité de plastique collectée. Mais une chose est sûre, pour Nikkei Asia, la tâche de ses ouvriers est pénible. Ils doivent trier des emballages alimentaires, des déchets parfois doublés d'aluminium. Et puis, reste à la racine le problème de la consommation plastique par les 115 millions d'habitants des Philippines. Près de 2,5 millions de tonnes de plastique par an, un tiers de ces déchets finissent dans l'océan, explique Nikkei Asia, dans l'indifférence générale ou presque.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain, dans Culture Monde, ce sera le dernier épisode de notre série sur les États sommés d'agir face aux violences faites aux femmes. Nous parlerons du Canada et la double peine des femmes autochtones avec Adeline Vasquez-Para, historienne, et Mylène Jacou, depuis Montréal, professeure à l'école de criminologie de l'Université de Montréal, ainsi qu'un focus sur les femmes autochtones aux États-Unis, un problème impensé, nous dira la journaliste et réalisatrice Sabrina Van Tassel. Dans un instant, les Midi de Culture.